Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Par les temps qui courent, écoute les artistes tous les soirs pendant une heure. Ce soir, rencontre avec le musicien Blik Bassi.
Un tango, une danse, un baiser.
Et tu peux t'appeler, pépé.
Ça y est, puis 21h.
Ah ben, à vous voir arriver, on n'aurait pas cru que c'était si bien. Donc, voilà, ça résume, quoi.
C'est vrai que le printemps, l'été, c'est formidable. On avait les mêmes tomates et les petits pois.
Par les temps qui courent.
Romain de Bec de Lièvre.
Ramasser la peau de leur voix à l'ombre de leurs gestes.
Il y a 60 ans, en septembre 1958, Ruben Niobé, homme politique, secrétaire général de l'Union des populations camerounaises, militant pour la réunification et l'indépendance du Cameroun, est assassiné par l'armée française. 60 ans plus tard, Blik Bassi, votre album remonte le temps, son titre est une date, 1958. En 11 chansons, votre disque retrace, convoque et évoque la figure et l'engagement de Ruben Niobé, comme un tombeau ou comme une statue pourrait le faire, mais avec des matériaux propres à la musique, votre voix, la langue bassa et une orchestration aérienne, plus légère que les pierres dont les statues sont faites. Bonsoir Blik Bassi.
Bonsoir.
1958, c'est le titre de votre troisième album. Il est paru sous le label No Format et Tôt ou Tard. Vous serez en concert le 11 avril à Bordeaux, le 15 avril à Paris, le 20 avril à Bourges et le 27 à Dax. Merci d'être là.
Merci.
When we pay mess, long years my pourri. Guayem noé. When you bless, Mimbumwes misira. Guayem noé.
Bassi, on écoute un premier extrait de votre album 1958. C'est le premier titre qui s'appelle Ngwa, qu'on peut traduire par l'ami.
Ouais, ami, frère, copain, ouais.
Pourquoi avoir choisi ce mot-là pour ce premier titre de cet album ?
Ce mot parce que ce mot qui m'est familier dans le sens où mes parents s'appelaient souvent comme ça. Mais également ce mot qui... dans les villages en général, les gens qui s'aiment bien s'appellent comme ça. Et moi, pour moi, Oumniobé, il est mon goa. Il est mon ami, il est quelqu'un que j'admire, quelqu'un que j'aime. Quoi.
Est-ce que c'est par cette chanson que vous avez commencé à composer cet album? Ou est-ce qu'elle est venue comme ça en premier?
Non, c'est pas par elle. Si pendant le... Une fois qu'on a tous les morceaux, on a souvent, quand on est confronté à faire un ordre, et c'est un moment hyper important parce que par quoi on commence, ensuite quelle est la chanson qui vient, et donc pour moi cette chanson est venue, s'est imposée en fait comme vraiment la chanson qui ouvrait l'album. En plus, il se trouve que c'est vraiment, je m'adresse. C'est-à-dire, je commence en m'adressant à Oumniobé en lui disant qu'il est mon ami, qu'il est quelqu'un que j'aime, quelqu'un que j'apprécie, mon héros. Et donc, commencer par cela avait un sens, non seulement musicalement, mais également par rapport au texte.
C'était une manière de s'adresser à lui ouvertement à l'entrée de cet album.
Absolument. Avant de parler de la suite, avant de parler de son travail, pour moi, il était important, comme un salut, de m'adresser à lui de manière solennelle avant d'aller plus loin.
Je disais en introduction que cet album donc est un hommage au parcours de Ruben Oumniobé, qu'il a quelque chose de l'ordre de, comme sur la pochette, on voit une statue qui est plantée dans votre tête, sa statue à lui, mais qu'il y a quelque chose aussi d'extrêmement léger et qu'on entend là dans ce morceau, et extrêmement aérien. Est-ce que c'est quelque chose dont vous aviez envie ou est-ce que ça s'est imposé comme ça?
En fait, à partir du moment où j'ai décidé de consacrer l'album à Oumniobé, je suis rentré en phase de composition. Les mélodies, en fait, elles me viennent, elles me sont suggérées par la nature, par tout ce qui m'entoure, par mon passé, par l'environnement dans lequel je vis. Et ensuite, c'est les mélodies qui imposent le texte au-dessus. Parce que en général, c'est comme ça que je compose. Et que une fois que je rentre dans ma période de composition, je n'entends et je ne vois que à travers un prisme musical, c'est-à-dire des couleurs, des odeurs, tout me renvoie à la musique, des bruits, des gens qui parlent, des klaxons dans la rue, tout sonne en musique, ce qui est incroyable. Et j'adore cette période parce que mon cerveau réagit complètement différemment et me démontre également et me rappelle surtout que nous sommes à l'origine de la création des différentes hormones de notre corps et que parfois nous l'oublions, quoi.
C'est vraiment pendant les périodes de composition que vous êtes dans cet état-là?
Absolument, pendant les périodes de composition de la musique, mais également lorsque j'avais décidé d'écrire mon premier roman, j'étais rentré dans cet espace de moment de création où je m'asseyais dans un parc et les gens que je voyais passer, en fait, mon cerveau analysait différemment tout ce qu'ils faisaient, comment les gens marchaient, leur mouvement de leur corps, comment ils portaient leur corps et où est-ce qu'ils allaient et l'expression sur leur visage, qu'est-ce que ça représentait par rapport au mouvement de leur corps. Et donc, bref, et tout cela, me donnait des idées, me nourrissait en fait de manière hyper créative. Et vraiment, à chaque fois que je décide, cela m'arrive depuis à peu près 10 ans maintenant, à chaque fois que je décide d'entrer dans le moment de créer, mon cerveau entend, mais vraiment, par rapport à ce que j'ai décidé de faire, n'entend que des choses qui vont me produire qui vont me présenter des éléments qui vont dans le sens de ce que j'ai décidé de faire.
C'est un moment agréable.
Oui, c'est un moment agréable, mais qui peut faire peur. Les premières fois, ça pouvait être bizarre pour moi d'entendre vraiment tout en musique, quoi. C'est-à-dire une conversation au loin, un bruit, un klaxon, une couleur, une odeur, tout me renvoyait à des mélodies, à des moments parfois de tristesse, à un moment de bonheur, mais toujours dans la musique, quoi. Et au départ, ça peut être très bizarre de se dire tout ce qu'on entend, ou quelqu'un qui m'appelle, ou quelqu'un qui me parle, je le regarde, mais ce que j'entends, c'est... ce qu'il dit, c'est sonne comme une mélodie et du coup c'est génial parce que ça me donne énormément de matière et de matière que j'essaie ensuite rapidement d'enregistrer dès qu'il y a une mélodie qui arrive, dès que il y a quelque chose d'intéressant qui arrive, j'enregistre et en fait ce qui nourrissait aussi ma démarche, qui était tout simplement de composer en général avant de faire chaque album, j'essayais de composer à peu près entre 200 et 250 mélodies. Dans lesquels je choisis à la fin 30 que je fais écouter à 10 personnes qui doivent en choisir 20.
Un travail de sélection.
Ouais, absolument.
Dans le clip qui accompagne ce morceau, Ngwa, on vous voit apparaître au tout début en costume et vous portez une mitraillette et on vous voit enterrer une mitraillette. Quel est le sens de ce geste-là ?
Mais en fait, à travers ce geste, je voulais tout simplement présenter la démarche qui était celle d'Oumniobé, qui était tout simplement de ne pas se battre avec des armes, mais des armes létales, mais tout simplement de se battre avec, le droit. C'est la raison pour laquelle il partait à chaque fois, même dans son discours à l'ONU, il partait en fait de tous les décrets, que ce soit le fait que le Cameroun n'était pas un pays colonisé, mais sous tutelle de la France et de l'Angleterre. Et il a donc appris le droit, il est allé dans un tribunal, il a travaillé pendant des mois là-bas pour comprendre le droit et pouvoir se battre de manière à travers des arguments. Et c'est ce qu'il a fait également quand il a pris la théologie, lui qui était initié à des pratiques de croyances traditionnelles, il a voulu rentrer dans la théologie tout simplement pour comprendre, puisque les prêtres participaient au mouvement et à la dynamique coloniale, et donc pour lui, pour essayer de se battre à travers les arguments, il fallait à chaque fois qu'il rentre, qu'il comprenne comment ça fonctionnait pour venir opposer des arguments aux prêtres en leur disant « Ouais, mais ce que vous dites, la Bible sur laquelle vous partez, sur laquelle vous basez pour argumenter et soutenir le travail des colons, vous allez tout simplement à l'encontre de ce qui est écrit dans le livre que vous portez, que vous défendez. » quoi. Donc, c'est vraiment sa démarche était celle-là de partir des arguments. C'est la raison pour laquelle il enterre la Kalachnikov au début pour dire que il va vraiment dans la discussion et que les armes qu'il utilisera seront des armes qui viendraient des mots, quoi.
Du savoir.
Ouais, absolument.
Je vous propose qu'on entende justement une archive de Ruben Oumniobé à l'ONU en 1952.
L'IPC a demandé à intervenir sur trois questions. La réunification immédiate du Cameroun, la constitution d'un conseil de gouvernement et d'une assemblée avec des pouvoirs législatifs. Et enfin, la fixation d'un délai pour l'octroi de l'indépendance au peuple camerounais. Telles sont, Monsieur le Président, les questions sur lesquelles le peuple de mon pays m'a mandaté pour venir ici. Je vous remercie, Monsieur le Président.
En 1955, Oumniobé était revenu de l'ONU et il était décidé à ne plus y retourner et à arracher l'indépendance aux Français par la mobilisation du seul peuple camerounais. Et il entreprend alors à cette époque une série de conférences à travers les villages et les villes, et ce qu'il préconise à l'orée de mai 55, c'est une mobilisation des Camerounais sur le thème d'un référendum au sujet de la réunification des deux Camerouns, le Cameroun sous tutelle française et celui sous tutelle anglaise. Alors à cette époque-là, le gouvernement français décide d'envoyer au Cameroun un homme qui s'était signalé ailleurs par la brutalité de ses méthodes. Il s'agit du gouverneur Roland Pré. C'est dans ce contexte que est proclamée en avril 1955 une prise de position connue aujourd'hui sous le nom de proclamation commune qui préconisait purement et simplement la création d'un État camerounais et la non-reconnaissance de l'autorité française sur le pays. Les Français tiendront cette proclamation commune pour un appel à la rébellion. Et c'est à partir de ce moment que des provocations seront organisées qui donneront lieu à la fin du mois de mai, les 25, 26 et 27, à des journées sanglantes qui firent un grand nombre de victimes parmi les populations.
Blick Bassi, en montant la voix de l'historien Achille Membe, une archive de 2005 qui donc commente le parcours de Ruben Oumniobé, qu'on écoutait en 1952, juste avant, à l'ONU. Comment cette figure s'est imposée pour vous jusqu'à l'idée d'en faire un album ?
En fait, les choses sont arrivées. En général, ma démarche est tout simplement lorsque je suis confronté à un problème, de ne pas m'acharner sur les conséquences. J'essaie tout simplement de partir des conséquences pour suivre leurs traces. Et en général, les traces m'amènent à l'origine du problème, à la source. Et donc, le chaos qui mène, le chaos dans lequel se trouve mon pays aujourd'hui, et puis d'autres pays africains, hein, c'est-à-dire un chaos politique, économique, éducatif, social, m'a amené de manière claire à remonter l'histoire et à savoir comment est-ce que c'était possible que 60 ans après l'indépendance officielle que nous en soyons là. Et également, cela m'a amené à me poser des questions, de me dire que, ok, après l'indépendance, est-ce que nous nous sommes arrêtés pour faire un bilan? Parce qu'en fait, il se trouve que notre pays et nos différents pays se sont construits sur une base structurelle qui n'a rien à voir avec ce que nous sommes. Parce qu'à l'époque, quand on décide de rendre leur indépendance à ces pays, on leur a quand même déjà tout simplement construit une structure dans laquelle ils devaient tout simplement continuer sans tenir compte des besoins, des demandes qui étaient les leurs et de leur réalité, de la réalité de leur espace, de leur environnement, parce que chaque environnement nous impose une réalité. Et nos pays n'ont pas été, on leur a pas demandé leur avis, par exemple, de la voie du développement. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, le développement? Est-ce que le capitalisme qui est imposé aujourd'hui au monde entier, est-ce qu'on nous a demandé si on était d'accord avec ça? Est-ce qu'on nous a demandé si on était d'accord avec la voie de l'éducation politique sociale qui ne correspond en rien à nos traditions, à la gérance de la société, de la cité? Qui avait lieu avant. Est-ce que on s'est jamais arrêté pour se poser la question de savoir, ok, est-ce que 60 ans après ou 50 ans après, qu'est-ce que ça nous a apporté? Qu'est-ce qu'il faut corriger? Comment est-ce qu'il faut prendre d'autres directions? Ou est-ce que tout simplement, oui, ils avaient raison, c'est la bonne direction. Jamais on ne s'est posé la question. Donc, on continue à vivre, à essayer de construire dessus, sachant que il est impossible complètement de bâtir quelque chose lorsque tout est coupé des racines. Et c'est le cas des nouvelles générations aujourd'hui qui n'ont presque rien en commun avec ce qu'ils sont réellement, et ils ont le cul entre deux chaises et tout simplement se battent avec une force incroyable pour devenir des avatars des Occidentaux. C'est ce qu'ils ne seront, parce qu'ils ne seront jamais des Occidentaux, ils ne seront que des pâles copies. Et donc la majeure partie de ces populations vivent dans une espèce de mimétisme, pathologie du mimétisme de l'autre, quoi. Et donc tout ça m'a ramené tout simplement vers Oumiobe et vers ses écrits, parce que là on parle un peu du combattant pour la liberté et l'indépendance, mais finalement en fait c'était quelqu'un qui se battait tout simplement pour les valeurs universelles, de dire qu'un humain, les humains sont égaux, quelle que soit leur couleur, quelle que soit leur race, et que à partir de ce moment-là, il comprenait pas pourquoi d'autres venaient imposer les manières de faire, et donc la colonisation n'avait tout simplement pas droit d'être. Et en plus, l'histoire d'Oumiobe me touche parce que lié directement avec ma famille. Ma mère, par exemple, a vécu un an et demi dans la forêt.
Quand il était en exil.
Même mon grand-père dormant d'un lieu à un autre, parce que notre village étant voisin de ce lieu d'Oumiobe, et qu'on tuait ou torturait les adultes pour qu'ils disent où se cachaient ce qu'on appelait les maquisards, en fait, qui avaient rejoint Oumiobe, parce que bien sûr il avait l'adhésion de tous les villages, et c'est le village qui les nourrissait puisqu'ils se cachaient dans les forêts. Et donc mon grand-père, qui lui était censé connaître Oumiobe, finalement a vécu dans la forêt pendant longtemps. Donc bref, tout cela m'a amené à repartir, à essayer de quelque part de ramener ce personnage et lui donner vie, sachant qu'aujourd'hui encore au Cameroun, moi lorsque j'étais gamin au Cameroun, j'ai étudié à l'école que c'était un terroriste. Et il était clairement écrit dans nos livres que Oumiobe était un maquisard, un terroriste qui tuait les gens dans les villages et tout. Et ce n'est que beaucoup plus tard, que lorsque je fais la démarche par moi-même de comprendre qui il était réellement, que je me suis rendu compte que même dans ma tribu, nous portons encore des clichés qui sont en fait complètement liés à cette période, parce qu'on dit par exemple des Bassa qu'ils sont des méchants, qui sont des gens prêts à prendre la matière, à aller se battre, en fait, à les tuer, mais en fait tout est lié à cette période, parce que comme c'était des gens qui se rebellaient, du coup le colon a profité de cela pour essayer de stigmatiser tous les différents peuples qui se battaient pour leur libération. Donc, pour moi, il était vraiment évident d'essayer de ramener ce personnage en lumière, parce que jusqu'à aujourd'hui, malheureusement, au Niobe, on en parle presque en chuchotant. Il y a 2 ans encore, mon grand-père, lorsqu'il me parlait de ça, il avait peur. Puisque après l'indépendance, il y a énormément de gens qui ont disparu parce qu'ils étaient soupçonnés d'avoir participé à ce mouvement de rébellion. Et donc voilà, les gens n'en parlent officiellement encore. Ça reste, il y a quelques écrivains comme Achille Bembe, Hemle Boum, qui ont écrit dessus. Super documentaire de Valérie Ozouf aussi en parle. Mais globalement, c'est encore une histoire qui reste tabou et cachée, quoi.
Comment, par la musique, justement, aborder cette figure-là, par rapport justement au travail de l'historien Achille Mbembe, par exemple, qui lui peut évoquer cette figure-là dans des livres. Vous, comment vous l'avez abordé par la musique, justement?
Ben en fait, ce qui est intéressant avec la musique, c'est de pouvoir à chaque fois apporter une perspective artistique aussi, hein, qui nous permet non seulement de partir de la réalité, mais également de pouvoir aller dans un monde un peu de rêve, de fantasme aussi, parce que de toute manière, notre monde est construit toujours à partir de rêves. Et donc, moi, ma stature d'artiste musicien me permet aussi d'aller aborder ce problème sur différents angles, sur différentes perspectives, et en tant qu'artiste, apporter une vision, une réalité qui est la mienne et qui, bien que complètement liée à l'histoire même, quoi.
Vous diriez qu'avec cet album, 11 chansons, c'était 11 manières différentes d'aborder la figure de Oum Niobe?
Absolument, parce que on peut non seulement pointer du doigt la responsabilité française, mais également on peut aussi mettre en lumière le fait que ceux qui se battaient pour l'indépendance partielle sont toujours au pouvoir. C'est-à-dire, Oum Niobe, Félix Moumier, Ouandié se battaient pour une indépendance totale. Et en face d'eux, on avait construit un camp qui était porté par le premier président du Cameroun, Amadou Ahidjo, formé par la France, dans lequel se trouvait quelqu'un qui s'appelle Paul Biya, qui est toujours le président du Cameroun. Donc on se rend bien compte que l'indépendance partielle est toujours ce qui règne aujourd'hui. Donc en fait, nous ne sommes pas réellement indépendants, puisque ceux qui étaient pour le camp d'indépendance partielle sont toujours au pouvoir. Mais également, ça nous permet de pointer notre responsabilité, celle de ma génération, de dire qu'OK, Oum Niobe savait qu'il allait mourir, il savait qu'il allait donner sa vie pour notre liberté, pour que nous puissions être là aujourd'hui à parler de cela. Qu'est-ce que nous en faisons réellement? Est-ce que nous prenons vraiment nos responsabilités pour pouvoir participer à l'émancipation de la cité, afin que les nouvelles générations aujourd'hui puissent demain se tenir fiers debout et tout simplement contribuer à l'émancipation des citoyens de cet espace, quoi.
La musique, c'est un moyen, vous diriez, plus simple de transmettre cette chose-là? Plus évident, plus direct.
Oui, en fait, avec la musique, avec en fait notre statut d'artiste musicien, on nous pardonne énormément de choses. On nous pardonne aussi également le fait que nous puissions tout simplement rentrer dans le couloir de liberté qui appartient à chaque humain. C'est-à-dire, la société est construite sur des standards préétablis qui nous imposent une manière de parler, une manière de nous habiller, une manière de paraître, une manière d'être, de réfléchir et de penser. Or, en tant qu'artiste, on nous pardonne parfois le fait de prendre notre chemin et donc d'aborder les choses complètement différemment, de s'habiller différemment et en fait d'être nous. Parce que la société, quelque part, a essayé de construire des éléments qui nous empêchent d'être réellement ce que nous sommes, parce que chacun de nous sommes tout simplement unique, et ce qui est incroyable et ce qui est beau, et donc pouvons avoir complètement des perspectives différentes. Et donc, on nous le pardonne, parce que nous sommes artistes en général, on sait que ah, ils sont spéciaux, et donc... Donc cela nous permet, moi j'essaye aussi de partir de cette petite liberté qu'on m'accorde pour pouvoir pointer du doigt les problèmes de notre société.
Et puis les chansons, ça permet de cacher des sens, en tout cas de faire passer énormément de choses différentes par une chanson.
Absolument, la chanson, la musique nous permet d'aller toucher l'autre. En plus des paroles, on peut aller toucher à travers une mélodie, une vibration, une énergie, aller toucher l'autre d'une autre manière, peut-être d'une façon qui lui permet de nous écouter. Peut-être que tout simplement en racontant l'histoire, la personne n'écouterait pas, mais avec la mélodie, avec une musique, avec une énergie, avec une vibration différente, une émotion, on peut aller toucher le cœur de l'autre et donc finalement l'amener à écouter ce qu'on a envie de dire.
Est-ce que vous avez pensé 1958, cet album, comme ce qu'on a pu appeler à une certaine époque un concept album?
Mais en fait, moi, ce que j'essaie de faire à chacun de mes albums, c'est tout simplement faire. En fait, pour moi, chacun de mes albums est un projet. Et je pense que parler de concept album, pour moi, n'a pas vraiment de sens à partir du moment où tout ce que nous faisons, pour moi, est politique. Tout ce que nous faisons, notre inaction est politique parce que notre inaction impacte la cité dans laquelle nous vivons. Notre action impacte d'une manière aussi ce que nous faisons. Donc, en fait, quelle que soit même juste notre présence, impacte l'environnement dans lequel nous sommes, puisque nous consommons de l'énergie juste à être là, de l'oxygène, et ainsi de suite. Donc, nous impactons, que nous le voulions ou non, la cité dans laquelle nous sommes. Et donc, à partir de ce moment-là, pour moi, parler et pointer du doigt ces différentes, les différents mots de notre société, d'une façon ou d'une autre, est pour moi juste quelque chose de naturel. Et je le pense pas comme étant un concept, mais tout simplement de dire que, à travers mon statut d'artiste musicien, j'essaye vraiment de partir, moi qui ai la chance d'avoir un micro, avoir une tribune, j'essaye tout simplement d'aller participer à ma façon à l'amélioration de notre société.
Qu'est-ce qu'il y a pour vous, Blik Bassi, de contemporain dans la figure et dans le parcours de Ruben Oumniobé?
Ben, je pense que c'est quelqu'un qui avait une vision incroyable. C'est-à-dire, quand on regarde, j'ai pas mal lu ses écrits pendant le maquis, pendant qu'il se cachait dans la forêt. Il écrivait, il a énormément écrit. Et moi, au départ, je le connaissais comme quelqu'un qui s'était battu pour notre indépendance. Et c'était un rebelle qui se battait pour des causes nobles. Mais finalement, en fait, j'ai découvert juste un humaniste qui se battait pour des valeurs universelles. Et donc, c'est quelqu'un, en fait, qui était un visionnaire, parce que les questions sur lesquelles il se battait, que ce soit le racisme globalement et également le racisme anti-blanc, à l'époque déjà au Cameroun, il parlait de ça et sensibilisait les Africains. Il disait, moi, je ne vous voudrais pas que demain qu'il y ait un racisme anti-blanc. Tout ce que je dis, c'est l'égalité. Je me bats pour l'égalité des races. Il parlait du tribalisme. Or, on se rend bien compte qu'après la dernière élection en octobre dernier au Cameroun, aujourd'hui au Cameroun, il y a des relents tribalistes très, 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 très forts qui actuellement gangrènent notre société, me font peur, parce que lorsqu'on regarde ce qui s'est passé au Rwanda, tout est parti de cela et tout. Et
ça donc, prend quelle forme en ce moment au Cameroun, ce tribalisme?
Ce tribalisme fait que actuellement, par exemple, il y a le chef de l'opposition qui est enfermé. Il y a un artiste qui s'appelle Valsero, qui est un artiste qui se bat pour l'émancipation de la nouvelle génération au Cameroun, qui est en prison. Et en fait, le gouvernement utilise également les tribus comme étant moyen de monter les uns avec les autres. Dans d'autres pays, c'est en général les immigrés, c'est d'autres communautés qu'on monte les unes aux autres. Chez nous, c'est les tribus. Donc aujourd'hui, il y a par exemple la tribu Bamileke qui est stigmatisée et au point où vraiment ça fait vraiment peur, quoi, parce que il y a beaucoup de gens qui sont emprisonnés à cause aussi non seulement de leur appartenance politique au parti qui est porté par le leader qui est Bamileke. Et lorsqu'on regarde les réseaux sociaux, c'est catastrophique, quoi. Et vraiment, ça me fait peur.
Machel, oh, Mabikova le, Mabikova, Nyukunde yesi, yo so nae, aba no, so la biweli pan, ki umyobe, aba no, yarle la. Yarisi Babi Karalcho Mamae Panolo Bo Nipek Mama Asogol Pes
weli san inyu yese acholo
France Culture. Par les temps qui courent. Romain de Bec de Lièvre avec Blik Bassi.
Blik Bassi, on écoute un nouvel extrait de votre album 1958 qui s'appelle Maki. De quoi parle cette chanson ?
En fait, à travers cette chanson, j'essaie de brosser les différents tableaux qui, dans mon, en fait, j'essaie de la recréer, hein, en fait, et donc je m'imagine ce qui se passait pendant cette période dans les villages Bassa au Cameroun et donc voilà je parle des parents qui étaient qui vivaient paisiblement dans le village et subitement étaient arrivés des gens qui pillaient tout ce qu'ils avaient et d'autres qui fuyaient, qui se cachaient et tout, et j'aime bien parfois laisser aussi mon imaginaire tout simplement me proposer revivre, en fait recréer des tableaux qui correspondent à ce que j'ai envie de décrire. Et dans cette chanson, j'ai décrit vraiment différents tableaux de cette période dans les villages, pas ça, de ce qui se passait pendant la période du maquis, quoi.
Ça peut comporter une part de fiction pour vous, la musique ?
Oui, je pense que la fiction, elle est présente au quotidien de ce que nous vivons. C'est-à-dire, même quand on est chez nous le matin et qu'on commence à penser à notre programme, je vais partir en chien pour arriver à France Culture, mais un truc, ok, je vais faire ceci. Pour le moment, c'est, en fait, au moment où on pense à ça, c'est des choses abstraites et fictives, quoi, jusqu'à ce qu'elles se passent. Et donc, je pense que oui, et moi, j'adore la fiction parce que notre cerveau a la liberté de... On lui donne une thématique et elle nous propose des éléments de par rapport à cette thématique, comment on les visualise, et je trouve formidable et j'aime bien m'amuser à cela. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle lorsque j'ai décidé de publier, d'écrire un livre, je suis tout de suite parti dans la forme romanesque parce que ça me permet de vraiment d'exploiter au maximum mon imagination, et je trouve que c'est super beau parce que les rêves se construisent également de cette façon.
On entend dans ce morceau aussi l'orchestration assez particulière que vous avez choisie pour cet album, mm-hmm. qui est plutôt aérienne, je dirais. Mm. Comment elle a été constituée, cette orchestration-là ?
Mais en fait, avec mon dernier album déjà, le précédent album que j'avais fait, j'étais déjà parti dans une orchestration assez... légère où j'avais tout simplement un banjo, où il y avait un violoncelle et un trombone. Et donc pour ce nouvel album, et sur scène on a vraiment testé énormément de choses, des pédales, des effets, et je trouve super le mélange de timbres entre le trombone, entre ma guitare électrique, ma voix, la trompette et les synthés. Et donc j'ai voulu tout simplement donner de l'espace aussi, hein, parce que nous vivons aujourd'hui, nous encombrons l'espace dans lequel nous vivons à travers tout ce que l'humain a entreposé, des immeubles, des maisons, et parfois tout simplement se lever. J'ai raconté à un ami qui a regardé le clip et je lui disais que à ce moment, quand le village où on a tourné le clip, en fait, quand tu sortais le matin de ta chambre, et tout ton stress, tous tes problèmes étaient aspirés par cet espace et par la nature qui prenait tout ton stress et tous tes problèmes et te chuchotait à l'oreille, écoute, mais ici, oublie toutes tes choses là, et donc tout cet espace, tout ce lieu, en fait, ce lieu là prenait tous tes problèmes et les écrasait, et les jetait à côté, disait bah vas-y, respire et vis, quoi. Regarde comment c'est incroyable, la nature. Regarde comment le monde peut être beau, quoi.
On serait trop encombré.
Trop. Mais il suffit de regarder dans nos maisons, quand on a envie de voyager. Moi qui pars tout le temps, parfois, je me suis rendu au bout de plus de 10 ans que je partais souvent avec trop de choses qui me servaient à rien. Dans ma valise, je mettais plein de trucs que je n'utilisais jamais. Pareil, à une époque, quand j'ai commencé à bien gagner ma vie, je m'achetais tellement de chaussures, tellement de choses, et je me retrouvais à porter la même chaussure pendant des mois, les mêmes fringues. Et donc, je me retrouvais encombré avec tellement de choses que je n'utilise jamais. Mais cette espèce de société de consommation dans laquelle on est complètement lancé, et donc j'essaie aujourd'hui tout simplement de m'émanciper de cela, et cette envie d'espace, en fait, me permet de me dire que il faut que j'oublie tous ces encombrants. En fait, c'est que des encombrants que nous avons chez nous, que nous avons lorsqu'on sort de chez nous, et que peut-être on pourrait exploiter l'espace différemment, quoi.
La musique, ce serait pour vous aussi un moyen de créer un espace? C'est créer un espace, faire de la musique?
Absolument, bien sûr, parce que justement, elle nous permet de pouvoir le créer, cet espace, même si on n'avait pas, contrairement à la réalité où quand tu sors de chez toi, si tu as besoin d'espace, tu ne peux pas forcément te permettre de l'avoir, parce que tout ne dépend pas forcément de toi, et que les choses, tu vis dans une société où les choses sont régies d'une certaine manière. Or, à travers la musique, je peux me le recréer, je peux me permettre de recréer cet espace, et que cet espace me permet aussi de m'exprimer complètement différemment, c'est-à-dire chanter sur une chanson avec des instruments qui me le permettent, me permet également de produire différentes énergies, différentes émotions, et donc du coup, quelque part, j'étais comme si je jetais quelque chose vers les autres pour essayer de toucher au loin, le plus loin possible, ceux qui ne sont pas près de moi, quoi. Et moi, la notion de l'espace, c'est comme ça que je la ressens aussi. C'est d'essayer de projeter comme si je projetais ma voix, comme si je projetais la musique, pour que ceux qui sont de l'autre côté du monde puissent m'entendre, quoi. Comme un cri qui arriverait juste là-bas, porté par l'écho du temps et de l'espace, quoi.
C'est quelque chose que vous ressentez aussi avec les musiciens, et notamment au moment de l'enregistrement de cet album, par exemple?
Absolument. Et je pense que le fait de poser cette envie, de poser cette ambiance, permet aussi aux musiciens avec lesquels je travaille d'aller chercher ça aussi dans leurs instruments, et d'avoir une autre perspective, une autre approche de cet instrument. D'ailleurs, c'est vraiment au départ ce que je leur ai demandé, c'est vraiment de s'émanciper de la manière normale, de l'approche normale de leur instrument, pour tout simplement aller lui parler différemment, aller le faire parler différemment, parce que moi, c'est ma démarche actuelle de mon quotidien, c'est tout simplement d'essayer de m'émanciper un peu du standard préétabli, pour essayer de petit à petit chercher qui je suis, ce qui est compliqué parce que nos parents qui sont déjà atteints par la pathologie de notre société nous donnent une éducation pensant nous donner une bonne éducation, nous donnent une éducation avec des notions de beauté, des notions de bonheur, de pauvreté qui sont complètement fausses parce qu'elles appartiennent à notre société de consommation. Comment est-ce qu'on s'émancipe de cela? C'est très très difficile parce qu'en plus on a tous les jours des éléments qui nous rappellent que attention, voilà comment il faut être, attention, il faut acheter ça, il faut te placer comme ça, voilà ce qui est beau, c'est ça. Finalement, au moment donné, on se demande qu'est-ce qui est vraiment nous-mêmes parce que même nos curseurs, nos standards, nos définitions des choses, tout a déjà été corrompu. Qu'est-ce que j'aime vraiment pour dire que non, moi, ça, c'est vraiment ce que j'aime. Est-ce que ce n'est, je ne suis pas influencé par ce que la société m'a soufflé. Donc, du coup, c'est hyper compliqué. Moi, j'essaie aujourd'hui, dans ma démarche quotidienne, d'essayer tout simplement d'aller me chercher, d'aller savoir qui est-ce que je suis réellement. Et du coup, dans l'approche musicale aussi, ça devient tout simplement une démarche normale et naturelle dans ce que je fais artistiquement.
On entend aussi Blik Bassi dans cet album une langue qui est le bassa. Mm. Est-ce que c'était évident que tout cet album devait être dans cette langue qui est à la fois votre langue maternelle et aussi la langue que parlait Niobe?
Oui, en fait, moi j'ai toujours chanté, j'ai eu la chance d'avoir toujours chanté, de n'avoir chanté qu'en bassa parce que pour plusieurs raisons. C'est d'abord une raison politique parce que je vis dans un pays où on a comme langue officielle le français et l'anglais et derrière 260 différentes langues et qui ne sont pas enseignées et j'espère que elles le seront bientôt parce que autrement je suis sûr que les 30 prochaines années elles vont majoritairement sinon toutes disparaître. Parce que si je discute avec une personne qui est bamiléké par exemple, on se comprend pas du tout, on est obligé de parler en français. Et donc ma démarche, elle est vraiment d'essayer de sensibiliser les dirigeants de chez moi pour que ces langues puissent être enseignées. D'une part, de l'autre part, c'est que la langue participe à la construction de base de notre cerveau. Et moi, le bassa est ma première langue, le français est ma deuxième langue, et le bassa participait vraiment à la construction de mon cerveau au point où je pense en bassa, je réfléchis en bassa, et du coup, pour moi, il devient évident lorsque j'ai envie vraiment de m'exprimer de manière sincère. Comme par exemple lorsqu'on est en colère, en général, quand on s'exprime avec la langue qui est la première langue, quoi. Et donc pour moi la musique c'est un moyen d'expression où la sincérité doit être au centre de tout. Et à partir du moment où j'ai envie d'être sincère avec les gens, je dois le faire en bassa.
Qu'est-ce que le bassa vous permet notamment quand vous le chantez dans cet album, que d'autres langues ne vous permettent pas?
Ben déjà le ce qui est génial, c'est que une mélodie chantée en bassa, en anglais et en français, la même mélodie sera complètement différente parce que chaque langue va apporter sa rythmique, chaque langue va apporter son, grâce aux intonations, va obliger la mélodie à s'adapter à elle. Et ça, je trouve ça génial. Et ce que je trouve super, c'est que, les chanteurs français, il y en a pas mal qui sont connus, des chanteurs anglais, il y en a pas mal qui sont connus, chanteurs bassa, je sais pas. Donc, donc mon rôle est aussi d'essayer de porter cette langue et peut-être de faire découvrir au monde la beauté de l'espace dans lequel j'appartiens, la tribu bassa, sa culture, ses traditions et à travers cette langue aussi, c'est une culture qui est portée et ma démarche est aussi de parler de cette culture, quoi.
Et parce que du coup, le bassa pour vous, c'est à la fois quelque chose qui est de l'ordre d'un retour vers le passé, et en même temps une manière d'expérimenter en écrivant dans cette langue-là. C'est les deux.
Oui, bien sûr. En fait, le bassa est tout simplement l'un des éléments qui me ramène à ma liaison avec mes racines, qui me reconnecte à ce que je suis réellement. Et ce qui est essentiel, parce qu'à partir du moment où on n'est pas reconnecté à ce qui est réellement, comme je disais tout à l'heure, ce qui arrive à une nouvelle grosse génération en Afrique, notamment au Cameroun, dans beaucoup de pays africains et au Cameroun, notamment le fait que les gens ne soient complètement déconnectés de ce qu'ils sont et qu'ils essayent et qu'ils pensent qu'ils savent ce qu'ils sont est grave parce que du coup, on voit bien ce qui se passe aujourd'hui, c'est que malheureusement ces gens-là sont, il y a rien de réellement construit contrairement où quand on commence à regarder les pays comme la Chine où Ils ont été obligés à un moment donné de fermer pour amener les gens tout simplement à savoir, à se rappeler, à se reconnecter à leurs racines pour pouvoir mieux porter. Parce que à partir du moment où la base structurelle est complètement fausse, c'est compliqué. Et on voit bien que tous les pays qui réussissent à un moment donné ont été obligés de le faire. Donc, pour moi, je pense qu'il est essentiel que je garde les pieds sur terre et que d'ailleurs, de toute manière, il n'y a aucun élément qui peut survivre une fois coupé des racines, quoi. Donc moi, j'essaie tout simplement de me reconnecter à mes racines si j'ai envie de vivre, mais également pour pouvoir mieux construire le futur, parce que le futur ne s'écrira d'une meilleure façon que à partir du sang qui partira, qui me nourrit des racines du passé au présent et au futur.
Est-ce que vous avez rencontré des difficultés à écrire dans cette langue-là? Ou est-ce que c'est simple?
Mais en fait, à un moment donné, lorsque j'ai décidé de ne chanter qu'en langue bassa, j'ai vraiment fait la démarche de me documenter énormément, parce qu'il y a des écrits, mais également de partir, de faire des séjours, ce que j'avais déjà eu l'occasion de faire lorsque j'étais gamin, parce que mon père avait insisté à ce que, jusqu'à nos 21 ans, qu'on ait une éducation traditionnelle. Et donc, ça se traduisait par... moi, par exemple, j'ai passé 6 ans au village avec un oncle et mon grand-père. Mais ça se traduisait aussi par la participation comme des espèces de stages en fait au village à chaque fois que nous avions des vacances jusqu'à nos 21 ans, c'était obligatoire. C'est-à-dire moi à partir de juin à septembre, j'étais pour les garçons, on était obligé d'aller au village et de faire un champ de plantain de 5000 m² pour les garçons et un champ de 3000 m² d'arachides pour les filles. Et en même temps, j'ai appris à chasser, à pêcher, à cultiver, parce que mon père tenait à ce qu'on nous vivions comme si le monde repartait de zéro. Lui, qui avait pourtant beaucoup de moyens, il a quand même tenu à ce que nous puissions avoir cette éducation, à connaître la nature, et notamment mon séjour de 6 ans au village m'a énormément construit, et en fait a construit aussi le lien que j'ai avec la nature. C'est la raison pour laquelle, même lorsque je suis ici, je vis dans des tout petits villages, parce que pour moi, le lien avec la terre est hyper, hyper important et tout cela fait vraiment partie de ma construction de base et je suis né dedans et donc j'ai fait la démarche d'aller écouter le bassa des vieux qui est différent du bassa de la ville aujourd'hui. Je me suis énormément documenté pour essayer d'utiliser cette langue de manière efficace, quoi.
Well, I composed the song on these terms in this way. Sometime I'll be laying down through the night and there are things will come to me. And I'll get up and jot it down. Maybe that's a title of a song. Skip, you could make a song out of such a thing. Out of cigarette blues, the paper bag blues, a Coca-Cola bottle, most anything. And then I get up and jot that down. Perhaps, maybe, the next morning I say, this title I suppose to compose a song off of this. You go to Bangalore, tell my boy. You go to Bangalore, tell my boy. What a time I'm having up in Illinois, in Illinois, up in Illinois, in Illinois, in Illinois. When I get my little cotton and I'm going to sell my seed. When I get my little cotton and sell my seed. I'm going to give my baby everything she needs. Everything she needs. Everything she needs. I'm going to give my baby everything she needs.
Blit Bassi, on entend Skip James, la chanson Illinois Blues. Juste avant, on écoutait une archive de lui de 1964 où il parle de son inspiration. Quelle importance il a eu pour vous, Skip James?
Je lui ai consacré mon précédent
L'album
disque.
Précédent.
Ouais, parce que Ouais, parce que pour moi, c'est quelqu'un. La première fois que je l'ai écouté, j'avais l'impression déjà qu'il chante. En fait, que c'était un chanteur du Cameroun. Et je savais même pas qu'il chantait en anglais, parce que ça ressemblait à une des langues de chez moi. Et sa manière de chanter, ses mélodies, sa voix me renvoyait à mon enfance où, en fait, lorsque j'étais chez mon oncle, chez qui j'ai passé 4 ans, en fait, c'est un oncle qui était incroyable, parce que lorsque nous sommes arrivés, il nous a dit à mon petit frère et moi, comme on était turbulents, mon père a décidé de nous envoyer 4 ans là-bas. Il nous a donc dit à mon frère et moi, je ne vais pas vous donner à manger. Je ne vais pas vous donner à manger de la viande. Vous allez aller chasser la viande vous-même. Vous allez aller chasser, à pêcher du poisson, cultiver ce que vous allez manger ici. Donc, il nous a donné, et c'est réellement ce qui s'est passé. Et donc, dans ce village-là, il n'y a jamais rien qui se passait. Et il y avait un vieux monsieur qu'on appelait Morilong, c'est-à-dire l'homme à la guitare, qui parcourait les villages et qui s'arrêtait une fois par mois dans un village différent. Et mon oncle, il riait jamais. C'était vraiment quelqu'un qui travaillait très, très, très dur. Il allait au champ à 5 heures du matin, il rentrait à 6 heures le soir et il ne souriait jamais. Il nous rasait la tête à mon frère et moi tous les samedis matins avec ou sans cheveux. Et le dimanche, on allait vendre le plantain dans un village voisin à 12 kilomètres. L'école était à 7 kilomètres à pied. Et donc, un jour, ce chanteur est arrivé au village. Et il s'est mis à chanter des chansons qui me rappellent vraiment Skip James. Et c'était la première fois où j'ai vu mon oncle sourire, esquisser un sourire sur son visage. Et donc la première fois que j'ai écouté Skip James, ça m'a vraiment renvoyé à cette période de mon enfance. Et je me suis dit, c'est qui ce chanteur-là? Et après, je suis rentré dans son univers, je suis allé chercher, écouter tout ce qu'il avait, tous ses différents disques, mais également lire son histoire, qui a été à un moment donné très très dur. C'est quelqu'un qui a fait des tubes, des chansons incroyables et qui n'a eu une reconnaissance qu'à la fin de sa vie lorsqu'il était malade et tout. Et qui, à un moment donné, d'ailleurs, a abandonné la musique pour aller, qui a fait des travaux, travailler dans la construction des routes et ce qui me rappelait aussi, qui me rappelle également la réalité des artistes musiciens aujourd'hui, hein, avec l'arrivée de l'internet, et la disparition du CD. Ce chamboulement et cette transition-là vers le nouveau monde fait que les artistes aujourd'hui vivent une situation parfois très très complexe et donc Skip James m'a ramené vraiment à toutes ces différentes réalités, à mon passé et puis à ce blues d'Afrique centrale qui est complètement différent du blues mandingue, du blues malien qu'on entend beaucoup. Mais ce blues là du Mississippi qui est beaucoup plus proche de la musique traditionnelle bantou, on l'entend pas souvent et sans parler de l'émotion dans sa voix quoi.
Est-ce que justement sur la voix avec ce nouvel album 1958, vous avez l'impression d'avoir exploré des nouvelles choses avec votre voix?
Je trouve que la voix est quelque chose de... C'est un super bel instrument, mais également, c'est un moyen de communiquer. C'est également à travers elle qu'on peut passer des vibrations, on peut passer une énergie, on peut passer une émotion, ce qui pour moi est vraiment la langue universelle, l'émotion. Et oui, j'explore ma voix tous les jours. Je peux pas dire que je la travaille, mais j'essaie d'explorer des heures par jour. Hein. Je passe des heures vraiment à essayer de me connaître aussi, parce qu'en faisant ce travail de ma voix, c'est un moyen aussi de me connaître et de m'assumer. Parce que aujourd'hui, par exemple, il y a des couleurs de ma voix que je n'osais pas assumer il y a quelques années, que je cachais parce que j'étais influencé par ce que la société avait décidé de la définition de la belle voix de notre société. Et finalement, je me suis, avec le travail que j'ai fait sur moi-même, tout simplement de dire qu'en fait, le moi que j'aime et le moi que je déteste fait quand même de toute façon partie de moi. Et donc, maintenant, il me revient à moi de savoir comment est-ce que je l'exploite, de temps en temps mettre le moi que j'aime et de temps en temps rajouter un tout petit peu du moi que j'aime pas. Et donc, finalement, en fait, je me suis rendu compte que la voix également, le fait d'explorer ma voix comme ça est aussi un moyen une autre façon déformée de simplement essayer de me connaître un peu plus.
On parlait du blues avec Skip James et de la question des musiques d'Afrique de l'Ouest. Est-ce que pour vous, c'est important de définir quelle est votre musique ? Le genre de votre musique ou pas du tout ?
Non, je pense que ces définitions correspondent tout simplement à des codes qui peut-être facilitent pour certains une commercialisation de la musique où on a besoin de savoir que ça appartient à telle catégorie. Mais pour moi, ça n'a aucune importance. Je me dis, à partir du moment où c'est un langage universel, non, le catégoriser, non. À partir du moment où mon envie est tout simplement de me connecter à un cœur d'un humain qui vit en Chine, d'un humain qui vit en France, d'un humain qui vit au Brésil, d'un humain qui vit aux États-Unis, catégoriser ce langage-là n'a pas de sens, exactement comme parce que pour moi il est porté par une émotion et l'émotion nous parle ou nous parle pas, quoi. Une émotion peut nous toucher ou peut ne pas nous toucher, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de catégoriser ça? C'est une émotion qui appartient à telle partie du monde ou pas? Non, ça nous parle ou ça ne parle pas, quoi.
Vous allez être en tournée là, au printemps en France. Est-ce que vous avez hâte des concerts autour de cet album 1958 ?
Oui, j'ai hâte parce que la scène pour moi est le meilleur moyen de... Pour moi, c'est le plus beau moyen d'expression que nous puissions avoir, parce que je pense que c'est le plus beau moyen quand on arrive à un moment donné à l'assumer, à le porter. Au début, pour moi, quand j'ai commencé à chanter, à être sur scène, c'était super, je le faisais parce que c'est cool, parce que voilà, je défendais les projets. Mais après, petit à petit, j'ai appris à vraiment vivre ce moment, qui est un moment où je me laisse aller, où parfois il m'arrive de pleurer sur une chanson et de m'arrêter et de continuer et d'être tout simplement moi, ce qui était difficile au départ parce que j'avais une éducation où pour mon père un homme ne pleure pas, il y a des émotions qui ne peuvent pas être portées par assumées par des hommes et finalement je me suis émancipé de cela et donc du coup lorsque je commence et je suis sur scène, déjà je ne m'appartiens plus, j'appartiens tout simplement à, je me laisse guider par je me connecte à l'univers et c'est lui qui me dit où partir, c'est lui qui donne la direction à mes différentes émotions et je trouve c'est incroyable parce que non seulement je vis ce moment l'extase où rien n'est calculé et où j'essaie même pas, je suis juste ce que je suis, mais également j'ai face à moi des gens qui prennent leur cerveau en otage pour moi, c'est génial. Qui me le donnent et
qui
me
prêtent leur cerveau.
Absolument, qui me prêtent leur cerveau et qui me disent bah, fais-en ce que tu veux. Je trouve que c'est un moment où on est hyper chanceux de pouvoir vivre ces moments, quoi. Et j'ai hâte parce que c'est ça qui donne aussi un sens à mon existence.
Merci.
Merci beaucoup.
Blik Bassi. Votre dernier album 1958 est paru sur le label No Format et Tôt ou Tard. Vous serez en concert le 11 avril à Bordeaux, le 15 à Paris, le 20 à Bourges et le 27 à Dax. Par les temps qui courent, on se retrouve demain à 21h. Ce soir, au son, c'était Manon Houssin, à la réalisation Charlotte Roux. Merci à Jeanne Aléos, Marianne Chassor, Luc Vauvillier et Anna Baron qui pensent et préparent cette émission avec moi. Pour réécouter Par les temps qui courent, rendez-vous sur la page de l'émission sur franceculture.fr où vous pourrez vous abonner au podcast. Make it go. Gel bablo kwakos. Where we decide to go. Basol abi weli nyolong. Mingangwes ri ni betomo. Di baleri tore ni belena loga. Leri tele pti bonyo vele pem. Where we decide. Gel papi yi klepesin.
Where we decide to go.